Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un feuilleton en forme de question. Qui sera la bonne maire de Marseille? La vague verte a bien déferlé sur la cité, mais l'écologiste Michel Rubirola n'a pas la majorité absolue. À droite, Martine Vassal ne s'avoue pas vaincue. Le sort de Marseille va donc se jouer au troisième tour. La nuit a été verte à Bordeaux, à Strasbourg ou à Lyon, entre autres, où les militants écolos savourent des victoires historique et l'échec des fronts anti-vert. Chez les Républicains, on se targue d'avoir remporté la majorité des villes moyennes, tandis qu'Anne Hidalgo repart en force pour un second mandat à Paris, alors qu'Agnès Buzyn ne siégera même pas au Conseil de Paris. Déception lourde à La République En Marche, si ce n'est la réélection d'Édouard Philippe au Havre. Va-t-il rester à Matignon? Maintenant, c'est toute la question. Entre les mains d'Emmanuel Macron, qui répondra dès ce matin aux attentes écolos des Français devant la Convention citoyenne pour le climat. La République En Marche et les leçons du scrutin sur fond d'abstention ultra massive. On y revient dans le grand entretien.
Avec successivement deux invités, le premier à 8h20 et le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, suivi au micro d'Inter du politologue Jérôme Jaffré.
Et dans ce journal, le jugement très attendu du procès Fillon aujourd'hui. Et puis une fin de carrière particulière pour les enseignants qui partent à la retraite cette année, dernière semaine avec les élèves.
France Inter.
C'est donc le dernier point d'interrogation de ces municipales. Marseille, où la droite est défaite après 25 ans. La deuxième ville de France est une victoire pour les Verts alliés à la gauche. Mais avec 38% des voix, Michel Rubirola et le printemps marseillais n'obtiennent pas la majorité absolue. L'héritière de Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal, et ses 30% refusent la défaite. N'empêche, plus belle était la vie hier soir pour les militants du printemps. Récit de la soirée côté vainqueur, signé Mathilde Vinceneux.
Il est déjà tard au QG de campagne du printemps marseillais quand les militants lâchent leur premier cri de joie. À la surprise générale, l'Union de la gauche l'emporte dans le 6e et 8e arrondissement, fief réputé pourtant imprenable du maire Jean-Claude Gaudin et de la droite. Maddy est militante, elle a du mal à y croire.
J'arrive pas à réaliser en fait. C'est impossible le 6-8 à Marseille. C'est Gaudin quoi, c'est merveilleux.
La gauche bat donc Martine Vassal, la présidente de la métropole, mais la victoire est courte, seulement 4 des 8 secteurs de la ville. Presque essoufflé, Michel Rubirola, tête d'affiche du printemps marseillais, prend la parole.
La victoire a été difficile, elle n'en est que plus belle. Même si elle ne nous offre qu'une majorité relative en siège, c'est une victoire relative pour nous, mais une défaite pour la droite. La droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville. Ce soir, c'est le printemps en été.
Michel Rubirola qui se montre déjà combative pour le troisième tour, celui où va se jouer le siège de maire. Mais en attendant, elle termine la fête entourée de ses militants écolistiers sur le Vieux-Port, face à l'hôtel de ville. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
Et voilà Samia Ghali en position d'arbitre. L'ex-sénatrice PS conserve sa mairie des quartiers nord. Il y a aussi le dissident LR Bruno Gilles, mais pas Stéphane Ravier. Le sénateur du Rassemblement National perd la mairie des 13e et 14e arrondissements au profit du général Galtier, candidat LR. Le Rassemblement National qui peut ce matin se féliciter de la victoire de Perpignan, première grande ville acquise depuis Toulon il y a 25 ans. Louis Alliot l'emporte là-bas sur le LR Jean-Marc Pujol. Plus modestement, le Rassemblement National décroche aussi Moissac dans le Tarn-et-Garonne, Bruay-la-Buissière dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, mais pas de second mandat à Mantes-la-Ville. Dans les Yvelines, la ville a basculé au centre.
8h04, mais les résultats qui changent vraiment la donne ce matin, Florence, sont ceux des écolos, souvent alliés à la gauche.
Fini le seul laboratoire de Grenoble où Éric Piolle a été largement réélu. Les Verts gagnent Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon, Annecy et Lyon, ville plus métropole. Grégory Doucet à la mairie avec 52% des voix. Bruno Bernard à l'échelon du dessus. Lourde défaite pour le clan Colomb qui s'était allié à la droite. Une page se tourne. Mathilde Imberti, c'est un nouveau chapitre que veulent écrire les militants écolos.
Les anciens militants saluent l'entrée dans une nouvelle ère, les tout jeunes aussi qui étaient de toutes les marches pour le climat à Lyon.
C'est juste historique en fait, je pense que les gens sont prêts pour ce changement justement, et sont prêts à couper le cordon qui nous relie avec l'ancien monde et à arriver sur quelque chose de nouveau et de plus beau. Voilà.
Grégory Doucet, maire de Lyon, ce sera son tout premier mandat politique. Âgé de 46 ans, il vient de l'humanitaire, un profil qui tranche après 18 ans de Gérard Collomb.
Pour moi, c'est un renouvellement de la classe qui est en place depuis 20 ans. C'est surtout ça.
J'ai jamais vu Lyon sans Gérard Collomb, donc ça me fait plaisir, je suis né à Lyon. Maintenant, il faut vraiment changer les choses sur le terrain concrètement. Et comment on fait une politique sur le terrain qui tient du sens, qui soit écologique, mais aussi et surtout sociale? Parce que c'est ça qui manque à Lyon en ce moment.
Les attentes sont grandes et les militants ont des priorités à faire passer.
On va mettre en place des états généraux de la culture, il y a plein de mesures pour remettre la nature en ville. C'est un vrai enjeu aussi du mandat.
Et comme nous avons dit ce que nous allions faire, nous allons maintenant faire ce que nous avons dit.
Grégory Doucet promet une ville apaisée aux entrepreneurs. Il dit que l'écologie ne sera pas l'ennemi de l'économie. Une riposte aux critiques très dures lancées pendant la campagne, mais qui n'ont pas eu de prise sur l'électorat lyonnais. Lyon, Mathilde Imbert, France Inter.
Et c'est donc l'échec du Front Collomb LR. Gérard Collomb cède la place après 19 ans de règne. Après avoir mis en garde ses électeurs, le voilà qui met en garde son successeur, Grégory Doucet.
Je crois qu'il va prendre contact avec la réalité. Le discours vert où on mettait des arbres partout vont être confrontés à la crise économique qui va y avoir à partir de octobre, novembre, sauver de la faillite des entreprises, essayer de faire en sorte que le chômage n'explose pas dans cette agglomération. C'est moins sympathique que de parler de la nécessité de promouvoir l'écologie. Trois mandats qui viennent de s'écouler. On a vu comment la ville s'est transformée. Ils vont avoir 6 ans pour prouver ce qu'ils sont capables de faire dans cette ville. Je leur souhaite bonne chance.
Gérard Collomb au micro de Christophe Vincent. Défaite du premier des macronistes et déroute pour le parti au pouvoir. Pas de conquête et des alliances avec la droite qui n'ont marché ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Strasbourg. Des proches du président ont même été battus au Touquet. Ne reste que la victoire de François Bayrou à Pau et celle évidemment d'Édouard Philippe au Havre, dont Emmanuel Macron va devoir décider du sort. Terrible défaite pour Agnès Buzyn à Paris, qui ne siégera même pas au Conseil avec moins de 16%. Sont des voix pire qu'au premier tour. La candidate En Marche, bonne troisième derrière Rachida Dati. Et la victoire est éclatante pour Anne Hidalgo, qui entame son deuxième mandat par un plébiscite, même si 63% des Parisiens sont abstenus. Elle pourrait s'offrir une majorité d'une centaine de sièges sur 163. Et avec Paris, les socialistes conservent Nantes, Rennes, Dijon, Le Mans. Ils conquièrent Nancy, où Mathieu Klein met fin à plus de 70 ans de règne de la droite. Alors que ça s'est joué à un cheveu pour Martine Aubry à Lille, 227 voix d'écart avec les écolos. Moralité finie, les petits pas pour la socialiste, la transition écologique au galop, dit-elle. Avec nous Yaël Gauz du service politique, chef du service politique de France Inter. Bonjour Yaël.
Bonjour Florence.
La transition écolo au galop, c'est aussi ça que s'apprête à faire Emmanuel Macron dès ce matin dans un discours devant les 150 citoyens de la Convention pour le climat.
Oui, on le voit à son agenda, Emmanuel Macron ne peut plus enjamber le scrutin, la vague verte est trop forte et dès hier soir, l'Élysée en prend acte. Il y aura des réponses fortes à la hauteur de l'enjeu, indique son entourage. Des résultats vécus comme un choc, profonde remise en question. Mais qu'avons-nous raté pour être à ce point punis dans les urnes, s'interroge un membre du premier cercle. Sous-entendu, l'écologie selon Macron est au mieux invisible. Au pire, elle nourrirait une opposition qui en réclame toujours plus. Les fronts anti-écolos ont sans doute fait du tort. D'ailleurs, vous l'avez dit, les alliances avec la droite ont partout, sauf à Toulouse, été sévèrement sanctionnées. Comment intégrer cette nouvelle donne à l'action du gouvernement? Du quoi dépend le qui? N'oublions pas qu'il y a eu des gilets jaunes il n'y a pas si longtemps, met en garde un proche d'Édouard Philippe.
Alors le qui, c'est Édouard Philippe, justement. Est-ce qu'Emmanuel Macron va le garder? Comment va-t-il faire?
Dans son dernier déplacement de campagne au Havre vendredi, Édouard Philippe s'en remettait aux stoïciens grecs. Il faut être déterminé à peser ce sur quoi on peut peser, fin de citation. Mais cette fois, il a un poids concret, le Premier ministre, pas seulement une couverture de Paris Match. Il s'impose franchement au Havre, la seule bonne nouvelle de la soirée pour la majorité avec Pau. Emmanuel Macron l'a immédiatement félicité, sans aller jusqu'à le reconfirmer à son poste. Un président libre qui déteste se faire imposer ses choix. Édouard Philippe est-il encore déboulonnable? Telle est la question. Il sera ce matin avec le président pour recevoir les citoyens de la Convention Climat à l'Élysée. Peut-être déjà le signe d'une continuité. Seul Emmanuel Macron le sait. Le Premier ministre a bien insisté hier soir pour dire qu'il ferait du Havre une ville plus verte.
Et puis elle, parmi les enseignements à tirer, il faut revenir sur la participation d'hier, désastreuse, avec seulement 40 à 41% de votants. Voilà ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon.
Clairement, la masse du peuple français est en grève civique. C'est une forme d'insurrection froide contre toutes les institutions du pays. C'est donc un moment compliqué, dangereux.
Voilà, il y a 60% d'abstention, c'est énorme, une grève civique, dit Jean-Luc Mélenchon, qui jette une ombre sur cette élection.
Oui, ce deuxième tour restera comme celui de tous les records, campagne la plus longue de l'histoire des municipales, 5 semaines au lieu de 5 jours habituellement dans l'entre-deux-tours, mais en apesanteur, campagne virtuelle plus que physique, véritable handicap pour ce scrutin où tout se joue sur la proximité. Difficile aussi de cerner les enjeux locaux quand la crise du Covid est nationale et mondiale et que tout découle dans les territoires de la prochaine relance qui se prépare pour la rentrée, une tension qui pèsera forcément sur la légitimité des maires élus.
Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter. On signalera parmi les résultats également le recul des communistes dans l'ancienne ceinture rouge de banlieue parisienne. Ils perdent deux de leurs fiefs historiques, Saint-Denis, les communistes défaits par un socialiste, Aubervilliers qui bascule à droite. Seule consolation, la reconquête de Bobigny après un mandat de l'UDI marqué par les affaires. Enfin, le PC perd Arles au profit de l'ancien patron de France Télévisions, Patrick de Carolis. Et chez les Républicains, tiens, la droite conquiert Lorient, Biarritz, Metz ou Montélimar. Elle conserve Nice et Toulouse, mais perd Bordeaux et sans doute Marseille. Ce qui n'empêche pas Christian Jacob de se féliciter.
On renoue avec la victoire. Après l'échec des présidentielles, des législatives, des européennes, ce soir nous allons avoir les Républicains et avec nos alliés, c'est plus de 50% des villes qui sont détenues par les Républicains sur les villes de plus de 9000 habitants, ce qui laisse augurer favorablement à la fois des sénatoriales et puis des départementales et des régionales parce qu'on conforte, là où on est solide, notre ancrage sur le terrain.
Voilà, Christian Jacob, président Les Républicains réjouis avant la difficile journée qui les attend, jugement au procès Fillon, l'affaire des emplois fictifs de son épouse, à 13h30 au tribunal correctionnel de Paris, dans un contexte de turbulence autour du parquet national financier. Les avocats du couple ont demandé une réouverture des débats et un report du jugement, mais le tribunal n'est même pas obligé de leur répondre au procès. En tout cas, les deux procureurs avaient requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 10 ans d'inéligibilité contre l'ancien candidat de droite, Corinne Audouin.
Pendant les 9 jours d'audience, les accrochages s'étaient multipliés entre François Fillon et le PNF. Les deux procureurs s'étaient amusés à citer les propos de l'ancien Premier ministre qui fustigeait ceux qui travaillent peu pour toucher de l'argent public. Pour l'accusation, les habitudes de captation d'argent public du couple ont été prises dès le premier mandat de François Fillon en 81, date des premiers contrats de son épouse. Pénélope Fillon a touché plus de 600 000 euros comme assistante parlementaire et 135 000 euros à la revue des Deux Mondes pour des prestations que l'accusation estime fictives ou surévaluées. Le regard noir, le ton sec, François Fillon avait plusieurs fois répliqué, attaquant la vision archaïque du parquet du rôle d'épouse d'homme politique, ironisant sur la méconnaissance des procureurs du travail d'assistante parlementaire. Lui qui avait déclaré d'une voix grave « Cette enquête restera dans les annales comme l'exemple d'un dysfonctionnement de l'institution judiciaire » apprécie sans nul doute aujourd'hui de voir les méthodes du PNF aussi crûment exposées.
Corinne Audouin, et ce soir c'est la fin de la doyenne des centrales nucléaires de France, Fessenheim, ou le début de la fin plutôt, puisque après le réacteur 1 qui a été débranché au mois de février, c'est le réacteur 2 qui le sera à partir de 23h ce soir, puis totalement à 2h30 avant un démantèlement qui va durer 20 ans. À l'étranger, les États-Unis n'en finissent pas avec le Covid-19, le Sud, mais aussi l'Ouest, particulièrement touché avec des contaminations qui continuent à augmenter. La Californie, bonne élève du confinement, connaît elle aussi une résurgence des contaminations, Loïc Loury.
Fin mars, la Californie avait été le premier État à ordonner un confinement général pour le Golden State. La situation actuelle est d'autant plus un constat d'échec avec pour résultat la fermeture des bars à Los Angeles et dans d'autres comtés. La mesure a également été prise par des États qui s'étaient montrés beaucoup plus laxistes, la Floride ou le Texas où là aussi le beau temps et les plages n'invitent pas la jeunesse à la prudence. Les contaminations augmentent ainsi plus ou moins rapidement dans près de 30 États. Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, où au contraire l'épidémie est maîtrisée, pointe du doigt les autorités fédérales. Leur tentative pour stopper la première vague était ratée. Ils disent ce qu'ils disaient il y a 3 mois. Ils sont dans le déni vis-à-vis de cette crise. Ils ne veulent pas dire la vérité aux Américains. Ce dimanche, toutefois, a semblé marquer en la matière une légère mais notable inflexion. Le vice-président Mike Pence s'est montré masque sur le visage. Lavez-vous les mains, ne vous touchez pas le visage et portez un masque lorsque c'est indiqué ou quand vous ne pouvez
pouvait pas appliquer la distanciation physique. Porter un masque est une bonne idée. Toujours rien, en revanche, du côté du président lui-même, qui ne s'est jamais protégé ni n'a protégé les autres en public, un comportement adopté par beaucoup de ses partisans. New York, Loïc Loury, France Inter.
Enfin, place à la dernière semaine, la der des der à l'école après une année si particulière pour les élèves comme pour les profs. Et que dire de ceux qui partent à la retraite et qui feront leurs adieux cette année sans grande fête ni kermesse, une fin d'année tronquée, pas toujours facile à vivre. C'est le cas pour cet enseignant de l'Essonne qu'a rencontré Faustine Kelmel.
Pour François Chouvin, la fin de cette semaine marquera aussi la fin de 42 ans d'enseignement, dont 5 dans cette classe de 28 pupitres.
Voilà, on est arrivé.
La frise historique au mur, l'alphabet. D'ici une semaine, il faudra tout décrocher car il est temps de s'arrêter, dit-il.
Surtout après ce qui s'est passé maintenant, quoi. Je pense que ça a marqué un petit peu l'arrêt.
Le Covid, le confinement, 3 mois sans voir ses élèves autrement qu'à travers un écran d'ordinateur. François Chouvin a souffert de ce manque de contact et de partage.
Oui, il y a de la déception dans le fait de ne pas avoir pu faire tout ce qui était prévu. C'est pas une fin d'année comme je l'avais imaginé, comme je l'avais espéré. J'aurais aimé vraiment profiter de mes élèves au maximum. Pouvoir voir les jours s'égrener, sentir cette petite pincée d'adrénaline qui serait venue pimenter un peu les choses, j'aurais aimé le vivre. Ça n'a pas été le cas, bah voilà, ce sera comme ça. Je vais philosopher.
Classe de neige annulée, projet pédagogique en suspens, la fin d'année a un goût d'inachevé.
Ça oblige à faire un petit peu d'introspection, de se retourner un peu plus sur ce qu'a été l'école avec nous. On a vécu autre chose. Je pourrais dire bêtement, au moins j'aurais tout connu. Mais voilà, je regrette d'avoir vécu ça par rapport à l'idée que je vais partir et que je vais perdre mes élèves.
François Chouvin ne pleurera pas au moment du départ, c'est promis. Mais il repassera dans son école pour une fête au mois de septembre.
Voilà, bon bah pas de fête, pas de kermesse, mais on peut saluer tous les enseignants qui partent à la retraite, à qui il reste une semaine de boulot.
Évidemment.
Avant les grandes, grandes longues vacances.
Et merci Florence Paracuelos.